11h05, bienvenue à cette deuxième heure d'émission. Avant d'aller à l'enjeu lié au taux d'inflation, je vais vous rassurer, là, Lucie nous a envoyé un courriel. Oui, mais c'est quoi? On n'a pas de solution. Là. C'est décourageant d'entendre tout ce qu'on entend par rapport au réseau de la santé. Lucie, il y a des solutions pour régler nos problèmes dans le réseau de la santé. Là, j'entendais justement il y a quelques instants, il semblerait que François Legault est capable de convaincre 5000 infirmières et infirmiers de revenir dans le réseau. Bien hâte de l'entendre là-dessus. Mais au-delà de ça, là, on a vraiment un coup de barre à donner. Un auditeur nous écrit, il compare le réseau de la santé à un tuyau d'arrosage qui est perforé, puis l'eau ne se rendra jamais jusqu'à l'autre extrémité. Est-ce que c'est normal au Québec en 2021, sachant qu'on consacre 40 milliards de dollars, près de 40 milliards de dollars pour notre réseau de la santé, d'attendre des 5 heures, 8 heures, 12 heures à l'urgence avec des jeunes enfants, avec des enfants malades, des aînés, hein, peut-être ça vous est déjà arrivé, père, mère, grand-père, grand-mère, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. À un moment donné, là, il faut mettre le pied à terre puis dire là, il faut se parler, là, faut se parler. Gouvernement, patron, syndicat, gestionnaire, employé. Je pense à Jacques qui nous a écrit sur le texto. Il y a les paramédics aussi qui vivent des difficultés. Alors, il faut vraiment dire, on a frappé le mur. Et qu'est-ce qu'on fait pour redonner du souffle à notre réseau? Parce que la population est de plus en plus vieillissante, on le sait. Alors, clairement, là, ça prend un gouvernement qui aura le courage de poser des gestes impopulaires, mais qui vont être salutaires pour l'avenir. Moi, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de passer par une espèce de, comment dire, d'électrochoc, si on veut s'en sortir. Alors voilà, c'est dit. Augmentation maintenant du taux d'inflation. Est-ce que vous avez réduit vos dépenses? On parle énormément de ça dans les médias aujourd'hui. Peu importe où vous vivez là au Québec, vous avez été confronté à l'augmentation de votre facture à l'épicerie, l'augmentation des coûts de l'essence. Alors qu'est-ce que ça veut dire 4,1% du taux d'augmentation du taux d'inflation? Est-ce que c'est une tendance lourde avec laquelle on devra composer? Réponse à nos questions avec Vincent Gelozo, qui est professeur en économie. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
Premièrement, le taux d'inflation, pour faire un petit cours 101 d'économie, là, le taux d'inflation, c'est l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Comment se fait-il qu'on est arrivé à un taux comme celui-là, le plus important depuis 2003, Vincent? Expliquez-nous ça. Là. Qu'est-ce qui fait qu'une économie comme la nôtre se retrouve dans cette situation aujourd'hui?
Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Mais le plus évident pour les gens, c'est le fait que pendant la récession, il y a eu une baisse de l'inflation, une baisse très importante du niveau des prix, tout simplement parce que l'activité économique s'est contractée. Donc, c'était normal. Et lorsque l'économie reprend, c'est tout à fait possible que, au fur et à mesure, par exemple, que les gens recommencent à consommer, mais que c'est difficile, par exemple, pour des employeurs d'embaucher des nouveaux gens très rapidement, de les entraîner, d'acheter des nouvelles machines, d'augmenter, en gros, leur capacité. Il peut avoir ce qu'on appelle un lag, une sorte de délai entre l'augmentation de la demande et l'augmentation de l'offre, ce qui fait que pendant un moment, il y a une augmentation des prix. Donc, il y a une partie de ce qu'on voit qui provient juste du fait que les ajustements ne se font pas d'une manière anodine, facile, sans complications. C'est vraiment plus le fait que les gens recommencent à vouloir consommer, mais c'est pas facile de recommencer à produire aux mêmes quantités qu'on avait avant la pandémie, donc les prix augmentent un petit peu.
Marc, un auditeur nous écrit, Vincent, je vous entends là-dessus. Selon moi, nous sommes entrés dans une phase inflationniste. Tous les produits sont en forte hausse. La seule façon de réduire la consommation est de réduire la pression inflationniste. C'est la façon de le faire, selon lui, c'est d'augmenter le taux directeur. Pas trop choix à cette mesure, mais c'est pour bientôt, après les élections. Ça devrait mettre un frein à la surconsommation. Alors, qui dit augmentation du taux directeur dit augmentation également des taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Marc? Est-ce que vous partagez son point de vue là-dessus?
Bon, la question, là, c'est parce que l'autre facteur qui est important, c'est pas juste ce qui est un peu naturel présentement, là, ce qu'on devrait s'attendre, ce qu'on se serait attendu indépendamment de ce que la Banque du Canada ou les autres banques centrales feraient. L'autre élément, c'est comment est-ce que les banques centrales répondent au changement. C'est possible que les banques ont été beaucoup trop lousses pendant la pandémie. Et il y a un débat entre les économistes au sujet. Est-ce qu'ils ont été trop lousses ou trop sévères? Mais le fait est que si, là c'est ça qui est important, c'est ce que je suis avec de dire, si l'inflation qu'on voit, c'est pas juste un blip d'un moment, que c'est quelque chose qu'on observe pour, disons, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, disons, et qu'on voit que ça persiste, que c'est toujours 3, 4, 5 % mais année sur année, pour les 10 prochaines années, j'exagère un peu pour les auditeurs, pour qu'ils voient, c'est là que, par exemple, l'augmentation du taux directeur devient importante, où est-ce que, là, la Banque centrale réalise que, oh, c'est pas juste quelque chose de temporaire, là. Il y a quelque chose de permanent qui a changé, et là, il y a une justification qui est faite, que la Banque centrale devrait augmenter le taux directeur, mais aussi racheter, de vendre des titres d'obligations qu'elle détient, justement pour réduire l'inflation, pour dire non, il faut qu'on revienne à 2 ou 3 % par année d'inflation, peut-être même moins, qu'on revienne vers la cible qui est établie pour que les choses soient stables en termes d'inflation.
Oui. Ça veut dire beaucoup de choses, une augmentation de l'inflation. Par exemple, un auditeur nous écrit, ça veut dire aussi 2 % de moins de rendement sur nos placements. Mais au-delà de ça, je partage avec vous, Vincent, les auditeurs, augmentation du prix des voitures, 7,2 %. Les meubles ont augmenté de plus de 8 % les électroménagers, plus de 5 % d'augmentation. L'épicerie également, viande, presque 7 % L'essence est 32,5 % d'augmentation. Est-ce que la pandémie peut expliquer le fait qu'on compose avec un taux, une augmentation du taux d'inflation de 4,1 %, qui, je le rappelle, est le taux le plus important depuis 2003. Est-ce que la pandémie a quelque chose à voir avec ça?
Oui, très simplement. C'est ça le grand débat d'économistes présentement, c'est à quel point la pandémie explique. Okay. La réalité, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé pour les prix pendant la pandémie, ils ont tombé. Donc, c'était inévitable qu'ils allaient réaugmenter alors que l'activité économique allait reprendre. On voit, par exemple, les prix de l'essence ont baissé pendant la pandémie. Les prix de plusieurs autres biens ont aussi baissé, parce que les gens consommaient moins, tout simplement. Maintenant, bien, la consommation se remet à augmenter et la production n'augmente pas assez vite derrière. Donc, il y a une augmentation dans les prix. La question, c'est est-ce que c'est uniquement la pandémie qui explique ce qu'on voit ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Je pense que, pour moi, comme économiste, la pandémie explique la quasi-totalité de ce qu'on voit présentement, que c'est très probablement une augmentation temporaire qui va se restreindre dans le moyen long terme, donc de revenir au niveau historique qu'on observe de 2 % d'inflation par année. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner de ça, c'est pendant l'été, tout le monde se souviendra qu'on parlait de l'augmentation sans cesse des prix du bois d'œuvre.
Oui.
Donc, tout le monde disait que c'est impossible à acheter. Mais si on regarde présentement qu'est-ce qui se passe, les prix du bois d'œuvre vont recommencer à baisser.
Ah, c'est une bonne nouvelle,
quand on
ça.
Regarde les prix qui sont échangés, par exemple, sur ce qu'on appelle les futures, donc les gens qui disent ben j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe avec les prix dans l'avenir, parce que je compte, par exemple, que les nouvelles usines soient ouvertes, que plus d'arbres soient coupés, que la production augmente, donc on attend que les prix de demain diminuent. Mais les marchés s'attendent à ce que les prix, par exemple, du bois d'œuvre diminuent. Ils ont déjà commencé à diminuer. Donc, que c'est temporaire, c'est une bonne image que c'est... Ça peut être très, très, très probablement temporaire.
Ça, c'est une excellente nouvelle, effectivement, Vincent. Le prix du bois d'œuvre, hein, les 2 par 4, 2 par 3, il y a plusieurs personnes qui ont mis leur projet de patio, de construction de patio, de rénovation sur la glace, compte tenu de l'augmentation qu'on a connue il y a quelques mois. Mais là, si les prix ont diminué, ça, c'est une excellente nouvelle. Vincent, je vais inviter nos auditeurs à réagir. Hein. Est-ce que vous avez réduit vos dépenses déjà compte tenu de cette poussée qu'on souhaite temporaire inflationniste? 514-790-9850 ou 1-866-790-9850. Il y a sur texto, on est une famille de 5, 3 enfants de 4 ans et moins. On dépense pas plus de 160 $ par semaine d'épicerie, sinon on n'arrive pas. Et moi, je vous félicite, là. 160 $ par semaine d'épicerie, vous êtes 5, dont 3 enfants de 4 ans et moins, là. Honnêtement, je ne sais pas comment vous faites. Ça relève du miracle, là. C'est incroyable, là. Vous faites probablement énormément à manger, mais enfin, c'est vraiment... je vous félicite. Il faut voir le prix que ça coûte à l'épicerie, là. Si vous permettez, Vincent, on va aller joindre une auditrice, Jocelyne, qui souhaite s'exprimer sur le sujet. Bonjour, Jocelyne.
Oui,
Jocelyne, je m'entends à la radio chez vous. Est-ce que c'est possible de baisser votre
volume? Oui, je viens de le baisser.
OK, excellent. Oui, alors vous, comment vous vivez ça, cette inflation-là avec laquelle on compose depuis déjà certains temps?
C'est c'est très difficile parce que déjà, nos salaires n'augmentent pas. Hein. Fait que moi, j'avais déjà coupé d'avance là, avant la pandémie. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tout explose, les prix explosent. L'inflation, c'est l'enfer, là. Tout augmente, les taxes, les assurances, l'essence, la nourriture. Fait qu'à un moment donné, on a beau couper, mais là, on sait plus où couper, là, à un moment donné. J'essaie de faire le plus possible d'aller au magasin d'alimentation les moins chers, de prendre quand même la bouffe la moins chère, de pas manger de viande ou à peu près. Tu sais, c'est ce qui coûte le plus cher, la viande. J'essaie de, là, voyager, là. Oublie ça. On voyagera plus. Les salaires augmentent pas. Donc, toutes les dépenses explosent. Donc, c'est l'enfer, là.
Vincent, une réaction là-dessus. Merci, Justine, d'avoir
appelé. Oui. Je vais faire une nuance. Les gens qui occupent des nouveaux emplois qui sont en train de se faire créer maintenant, on regarde les salaires de ces nouveaux emplois-là, ils augmentent, donc ils s'ajustent pour l'inflation. Ce qui est difficile, c'est probablement le cas pour Jocelyne, c'est qu'elle a un contrat de travail qui avait précisé un salaire, disons, pré-pandémie ou au milieu de la pandémie, et ça prend du temps, quand généralement on a un contrat, de changer les termes du contrat. Donc, ce qui est probablement difficile pour les gens avec l'inflation présentement, c'est que leurs salaires ont plus de rigidité que les prix de ce qu'ils consomment. La question qui est vraiment importante, c'est à quelle vitesse les salaires peuvent s'ajuster. Et ça ne dépend pas beaucoup de ce que les banques centrales peuvent faire. Ça dépend beaucoup plus du niveau de compétition qu'il y a dans le marché du travail, du niveau d'entrepreneurship qu'il y a dans l'économie. Donc, par exemple, Jocelyne, avec qui on parlait, si un employeur vient la voir et lui dit « Je sais que ton employeur, présentement, te paye X dollars de l'heure. Si tu viens travailler pour moi, je te paye X plus, disons, 10 dollars de plus, peu importe le montant. » Là, Jocelyne change d'emploi et peut facilement avoir un salaire plus élevé ou utiliser l'offre pour demander une contre-offre de son employeur actuel. Ce qui détermine en gros la flexibilité des salaires dans le court terme, c'est le niveau de compétition dans l'économie, mais ça n'a pas de lien, par exemple, avec la pression de votre premier auditeur, avec la position de la Banque centrale. Ça a beaucoup plus rapport avec, par exemple, ce que le gouvernement du Québec fait sur le marché du travail ou ce que le gouvernement fédéral fait en faisant des restrictions sur l'entrepreneurship. Ça, c'est beaucoup plus important que les politiques monétaires.
Il faut que j'aille à la pause, Vincent. Je n'ai pas le choix, mais la famille qui nous a écrit tout à l'heure, 5 sont 5, 3 enfants bas âge, 160 $ d'épicerie par semaine. Hein, ils gagnent 47 000 $ à deux par année. 47 000 $ à deux par année. Écoute, ça relève du miracle. Là. Je vous le dis, ça relève du miracle. C'est assez incroyable. Oui, courte pause, Jean-Christophe, on y va. On poursuit avec vos réactions sur le prix du pain et bien d'autres choses. Et notre économiste, Vincent Gelozo.
Au réseau Cogeco, vous écoutez l'effet Normando. Votre parole compte.
Pas facile, hein, les défis du quotidien. Réaction de votre côté sur le texto. J'ai eu le malheur de déclarer 7 000 pour mes impôts de 2020 et ma pension fédérale a baissé de 83 $ par mois. Je peux pas payer beaucoup de luxe, mais elle dit « je tricote en tabarnouche ». Effectivement, c'est vraiment pas évident. Bravo à cette famille de 4 personnes qui cuisinent énormément à la maison. Leur budget ne dépasse pas 120 par semaine, 120 $ par semaine pour l'épicerie. On mange très bien avec une méditerranéenne, pas de plats préparés. Félicitations, vous avez toute mon admiration. Une autre famille, ils sont 6, dont 4 enfants de 12 à 18 ans. 300 $ par semaine auxquels s'ajoute le Costco. Ça, là, j'imagine vous avez un bon frigidaire parce que ça mange les ados. Et le prix du pain. Hier, j'ai fait le saut à un auditeur qui nous écrit en voyant le prix du pain pour avoir un prix convenable. Il fallait en acheter 3. Ben oui, toi, il y a certaines grandes surfaces, là. Ça, c'est-tu tannant, hein? Faut que tu en achètes 2 ou 3 pour avoir un bon prix. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de congélateur pour garder tout ça. Enfin, ça, c'est une autre façon de nous obliger à consommer. Vincent Gelozo qui est avec nous, professeur en économie. Vincent, je vais aller joindre Sébastien avant de revenir à vous. Réaction, Sébastien, à ce taux d'inflation de votre côté, ça représente quoi concrètement dans votre vie?
Honnêtement, pas grand-chose. Nous, depuis qu'on budgète les inflations, ça ne nous affecte pas justement parce qu'on est prêt, on a déjà organisé finalement les montants qu'on est prêt à débourser pour acheter ce qu'on a besoin. Donc, À ce moment-là, on s'adapte là, lorsqu'on se rend compte que les prix qui sont un petit peu plus élevés, ben, on va acheter d'autres choses.
Vous, Sébastien, vous avez un budget très serré. Quand vous dites on budgète l'inflation, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
En fait, on ne budgète pas l'inflation, on budgète nos dépenses. Okay. Donc, au niveau nourriture, coût des véhicules, coût de l'essence, tout ça. Donc, tout ce qui doit partir finalement du compte conjoint, ben, à ce moment-là, on sait qu'est-ce qui s'en va, puis où est-ce que ça s'en va. Puis à ce moment-là, ben, c'est beaucoup plus facile d'absorber si jamais il y a des augmentations.
Mais ça prend de la discipline, Sébastien, pour faire ça, pour suivre son budget à la lettre.
Malheureusement, oui.
Et vous en avez de toute évidence.
J'ai lâché un petit peu dernièrement, mais là, je pense qu'avec le retour, là, ma femme est de retour au travail, donc là, on va être capable justement de reprendre le dessus là, sur ça. On s'est gâté un petit peu dernièrement. Okay. Mais là,
avez-vous des enfants, Sébastien?
Oui, deux enfants.
Ils ont quel âge?
Mon plus vieux a 4 ans, puis ma plus jeune vient d'avoir 1 an. Là.
Quand même, hein, c'est des jeunes enfants. Mais bravo, Vincent, ouais. Ça peut certainement donner une idée à nos auditeurs, avoir un budget, le respecter. Là, je vais vous faire sourire avant d'aller à Yvon. Les beignes au sucre du Géant ont augmenté de 250% depuis le début de la COVID. C'est mon indicateur d'inflation. Nous, écrit-il. On va aller joindre Yvon. Bonjour, Yvon.
Bonjour, madame.
Je vous écoute.
Bon, ben moi, je suis à ma retraite.
Oui.
Et puis, j'ai mon garçon qui demeure avec moi, qui a 13 ans. Et puis, l'augmentation qu'on a eue pour la pension, c'est même pas de l'ordre de 1% ni même de 1,5%. C'est 0,04%.
Ouais,
c'est bas pas mal.
Oui, vous avez raison.
Et puis là, ils vendent qu'ils veulent nous donner 50 piastres de plus par mois en disant, ben, on va vous donner 750 de plus par année. Tu vas aller avec ça. Là.
Ouais,
même pas 50 piastres par mois.
Ouais. Ça, c'est une réalité dont on n'a pas beaucoup parlé durant la présente campagne électorale. Hein? Puis ça m'étonnerait qu'on en parle d'ici lundi, là, mais nos aînés là, qui vivent avec juste la pension, là, c'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile.
Non, non. Puis en plus, c'est que moi, l'avantage que j'ai à d'être avec mon garçon, là, c'est que je fume pas, je bois pas, puis on sort pas. Fait que on s'est plutôt serré sur le budget, là, mais on peut pas se permettre des folies. Là. Tu peux pas...
Je
viens m'aller.
Il y a
une autre chose.
Oui.
C'est qu'il y en a qui sont là, on va augmenter le taux d'intérêt. Bien, il ne faut pas oublier que notre voisin à côté, là, c'est les États-Unis. Puis lui, il n'est pas intéressé à augmenter le taux d'intérêt parce que, vois-tu, la guerre, ça coûte cher. Tôt ou tard, il faut que tu payes. Puis là, il est tellement endetté de milliards de milliards de dollars parce qu'il a fait la guerre. Ben, ça me surprendrait bien gros qu'il monte son taux, parce que si ici, on a le malheur de monter notre taux d'intérêt, j'étais dans la finance anciennement.
OK.
Puis, la réaction, elle s'est faite entendre tout de suite. Vous souvenez-vous de Electrolux? Ils ont déménagé, puis il y a beaucoup de compagnies qui ont déménagé aux États-Unis.
OK. Merci beaucoup, Yvon. Yvon, je veux pas qu'on parte sur des grandes théories, là, mais je veux quand même faire réagir Vincent là-dessus. Merci beaucoup d'avoir appelé. Vincent, en fait, qu'est-ce que le gouvernement peut faire par rapport à une poussée inflationniste comme celle qu'on connaît actuellement? Oui, il y a notre voisin américain, comme Yvon l'a dit, qui est notre plus grand partenaire commercial. Mais au-delà de ça, est-ce que le gouvernement a une marge de manœuvre par rapport à ça?
Bon, il y a deux manières de décomposer ça, puis c'est comme ça que je le dis à mes étudiants, c'est qu'il y a des facteurs qui sont réels, qui ont rapport avec la production en soi, puis il y a des facteurs qui sont nominaux, puis nominaux, ça veut juste dire que c'est la quantité d'argent qui circule dans l'économie. Nominaux, c'est ce que la banque centrale peut faire. Donc ça voudrait dire augmenter le taux directeur. Mais il y a d'autres manières de faire baisser les prix, puis ça, c'est des facteurs réels. Ça serait, par exemple, de déréglementer certains services. Donc, par exemple, au Canada, la téléphonie, c'est interdit pour des firmes non canadiennes de participer dans le marché, ce qui fait qu'il y a moins de compétition, donc les prix sont plus élevés que ce qu'ils pourraient être si, par exemple, des firmes américaines pouvaient rentrer. Si on les laissait rentrer, le prix de la téléphonie baisserait. Si on abolissait la gestion de l'offre, par exemple, le prix du lait, du poulet, du fromage baisserait aussi. Donc ça, c'est des facteurs dans lesquels on affecte les coûts de production pour les firmes. Donc, les firmes peuvent offrir plus de biens. Et donc, en offrant plus de biens, les prix en viennent à baisser. Donc, la question, c'est qu'est-ce que le gouvernement peut faire?
Ouais.
Ça dépend lequel est politiquement, je ne sais pas comment dire ça, mais attrayant pour les politiciens. Des réformes structurelles qui sont dans l'ordre du réel ou la gestion de la politique monétaire qui est de l'ordre du nominal.
Ouais, mais ça, c'est là, écoutez, je vous arrête, Vincent, parce que c'est trop théorique. Oui, mais c'est trop théorique pour moi-même, j'imagine. Pour si on reste sur le plancher des vaches en bon français, là, parce que j'ai entendu Justin Trudeau dire ça, là, qu'il allait gérer l'inflation. Parce qu'on pourrait lui reprocher également d'avoir tellement investi de capitaux dans notre économie. Oui, il y a le PCU, mais c'est énorme l'argent qui est injecté là, par le gouvernement fédéral. C'est correct, là, parce qu'il y a des gens qui avaient besoin d'aide, énormément d'aide. Je questionne pas ça. Mais en quelque part, est-ce qu'il n'est pas un peu responsable? Est-ce que ça ne crée pas un effet boomerang, oui. ça sur le qui est pu expliquer en partie l'inflation qu'on connaît?
Ça dépend. La manière que la dette que le gouvernement a pris peut faire de l'inflation, c'est si le gouvernement veut se servir de l'inflation pour réduire sa dette, à toute fin pratique. Ça, c'est une manière qui peut se produire. Donc, ça pourrait être une des manières que le gouvernement fédéral ne ferait absolument rien ou essaierait de dire à la Banque centrale, à la Banque du Canada, de ne pas agir sur les taux d'intérêt parce qu'elle a un avantage à utiliser de l'inflation pour que les promesses qu'elle a faites en termes de dette ne valent pas autant dans le futur qu'elles ne valent maintenant. C'est une manière un peu cachée de financer les dépenses du gouvernement. Ça, c'est très, 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 très pervers à long terme. Puis votre Yvon, tantôt, qui nous a appelé, lui, c'est un bon exemple de qui souffre parce qu'il y a un revenu fixe. Avec un revenu fixe, l'inflation vient juste gruger son revenu. Et c'est généralement ces gens-là qui souffrent lorsque le gouvernement essaie de faire une manière de réduire son fardeau de la dette en utilisant l'inflation.
OK. Il y a un auditeur qui nous écrit, « Michael, nous sommes importateurs, les conteneurs ont augmenté, ça n'a pas de bon sens. Ce qui coûtait 3 500, 4 000 $ coûte maintenant entre 22 000 et 25 000 $ seulement en transport de l'Asie vers Montréal. » Alors ça aussi, ça explique une part de l'augmentation des prix. Là. Ça, c'est clair que ça a un impact direct sur l'augmentation des prix. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est sûr que il y a une partie d'éléments que ça peut être des choses comme le prix des containers. Je ne peux pas me prononcer sur le prix des containers spécifiquement, mais un des facteurs qui est probablement sous-estimé dans le long terme, quand je disais tantôt le réel, les gens vont imaginer ça, le protectionnisme. Donc, les tarifs, les barrières tarifaires qu'on met pour que les gens puissent pas faire d'échange ou qu'on met des taxes pour importer ou exporter, dépendant de où est-ce que c'est. Dans les dernières années, c'est à la hausse. En fait, on se souvient, par exemple, dans la présidence de Donald Trump, il y avait énormément de protectionnisme. Mm-hmm. Ça se continue, par ailleurs, avec la présidence de Biden. Mais mm-hmm. l'effet que ça a, c'est que ça réduit pour les exportateurs leurs revenus, donc nous ici. Mais aussi, quand nous, on engage là-dedans, on augmente le prix pour les consommateurs. Donc ça, c'est un facteur aussi qui est problématique dans le long terme.
OK. Merci beaucoup, Vincent Geloso, pour ces explications. Je rappelle, vous êtes professeur en économie. Excellente journée, Vincent.
Merci beaucoup.
Merci, bye-bye. Je vais vous lire un courriel de Lorraine avant de clore ce segment inflation. Je ne crois pas que les restos vont réduire leur prix qui a considérablement augmenté. Épuisés, nous sommes arrêtés pour un repas chez O'Cock. Il nous en a coûté 29 $ pour deux repas cuisses. C'est comme ça partout. Les légumes directs du producteur, la viande surtout. Elle a fait beaucoup à manger, mais en fait, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui grattent, hein, qui grattent la scène, comme on dit, et qui font, comme Sébastien, des budgets extrêmement serrés. 11h32 presque. Oui, courte pause. Et on vous revient avec cette histoire choquante, une bénévole qui vend des animaux malades. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez vraiment l'état de santé de votre animal lorsque vous en faites l'acquisition?